Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Vous retrouverez Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir. Bruno Donnet pour ses télescopages. Marc-Antoine Lebray et ses stories. Sans oublier le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Notre info média avec un pari média qui a payé, celui des podcasts Code Source et La Story, lancé il y a 3 ans par le groupe Les Échos, Le Parisien. Bilan, les deux projets occupent désormais les 2 premières places du classement des podcasts natifs d'actualité les plus écoutés. On va voler au secours de la victoire avec leurs présentateurs et concepteurs respectifs, j'arrive à le dire, Jules Lavie et Pierrick Fay, un ancien d'Europe 1. Nos invités ensuite, Jean-François Paty, directeur marketing de la FIFA, la Fédération Internationale de Football, avec une actualité mondiale qui peut changer l'écosystème de la télé à l'échelle de la planète. Oui, la FIFA vient de lancer FIFA+, plateforme de divertissement en ligne en 11 langues, des dizaines de milliers de matchs à voir gratuitement, des documentaires, des directs. Les chaînes et les plateformes payantes ne sont pas tranquilles. Enfin, Adrien Gallo, fondateur et leader des Bébés Brunes, groupe de rock français, disque d'or à 17 ans alors qu'il était encore lycéen, t'imagines les révisions. Son dernier album est aussi un album solo, Là où les saules ne pleurent pas, dans lequel il tourne le dos au rock, direction la grande variété française, avec notamment 2 duos avec Vanessa Paradis. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour.
Au sommaire de votre journal des médias.
Une émission spéciale autour des femmes qui témoignent contre PPDA, le rachat de la Provence, le retour de l'emoji drapeau breton, oui oui, et celui de Nolwenn Leroy dans The Voice, c'est un hasard, l'agression d'un photographe de West France, et puis un documentaire qui retrouve le père de Marilyn Monroe.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
Ils ont regardé France 2, Meurtre au paradis et leader, 3 990 000 téléspectateurs, 18% de part d'audience. Ce qui veut dire que c'est une déception pour TF1 qui proposait une deuxième soirée du remplaçant. Série avec Joey Star, 3 380 000 téléspectateurs, 15,2% de part d'audience. Les premiers épisodes avaient attiré plus de 6 millions, hein, près de 7 millions le tout premier. Donc vraiment, c'est une déception. Et puis troisième, M6, là, ce n'est pas une déception. C'est un record en nombre de téléspectateurs pour Marié au premier regard depuis le début de la saison, hein, 2 940 000 téléspectateurs hier soir, 13,2% de part d'audience.
Je veux dire pourquoi je dis encore, parce que les chiffres ne cessent de monter alors sans que normalement arrêt. Ce genre d'émission, l'audience s'érode petit à petit et là
semaine après semaine, je les ai sous les yeux, ça ne fait que monter.
Culture Média.
À la une, un événement médiatique ce soir, Mediapart propose une émission spéciale avec les femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de violences sexuelles.
Mais elles sont 20 à participer à l'émission, dont 18 à visage découvert. Certaines témoignent pour la première fois publiquement, car toutes ont témoigné dans le cadre de l'enquête judiciaire, ou même porté plainte, 8 d'entre elles pour viol. Mediapart les a réunies sur un même plateau pour recueillir leurs témoignages et précise que la plupart se rencontrent pour la toute première fois. Elles sont d'ailleurs issues de milieux professionnels différents, journalistes, autrices, employées de magasins, bibliothécaires, enseignantes, conseillères aux entreprises, etc. Elles ont entre 28 et 63 ans. Mediapart a publié les 5 premières minutes de l'émission hier soir. Les femmes se présentent tour à tour.
Je m'appelle Margot Coquille-Laize, je suis enseignante. C'est la première fois que je témoigne publiquement en réponse au dépôt de plainte de M. Poivre d'Arvor pour dénonciation calomnieuse. Être ici aujourd'hui à visage découvert, c'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens mon témoignage, à savoir qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans, et qui m'a agressé sexuellement dans son bureau à l'âge de 24 ans.
Patrick Poivre d'Arvor a lui décliné l'invitation et a rappelé via son avocat qu'il conteste toute violence sexuelle ou non à l'égard des femmes qui l'ont accusé. Mediapart qui rappelle que PPDA est présumé innocent. L'émission est diffusée ce soir à 19h sur le site de Mediapart.
Et ce sera également l'objet de la chronique de Bruno Donnet tout à l'heure à 10h sur Europe 1 dans Culture Média évidemment. Nouveau rebondissement dans le rachat des parts de Bernard Tapie dans le groupe La Provence.
Oui, le conseil d'administration a agréé l'offre de rachat par l'armateur CMA-CGM. mais en ayant recours à une sorte d'astuce, hein, il a invalidé les votes de 3 administrateurs sur 5, ceux qui représentaient Xavier Niel et qui donc s'opposaient à ce rachat. Ces derniers vont donc déposer un recours.
On va suivre cette affaire. Du sud, on passe à l'ouest. L'emoji drapeau breton fait son retour sur Twitter.
Oui, si vous tapez dièse emoji BZH, comme braise, hein, un petit drapeau breton s'affiche. Ce sera le cas jusqu'au 19 mai. Si je vous en parle, c'est parce que ce retour a un lien avec l'Eurovision. Samedi prochain, la France sera représentée par le groupe Alvan et Aez et leur chanson électro-celtique. Oui, électro-celtique, entièrement interprétée en breton. Alors, si vous nous écoutez depuis le début de cette émission, je veux dire depuis 3 ans maintenant, oui. Vous savez qu'on ne manque jamais une occasion de parler de l'Eurovision dans cette émission.
Plus souvent que de raison, je dirais même.
C'est ça. Bon, l'emoji, c'est une façon de soutenir nos candidats à l'Eurovision, mais aussi de militer pour que l'emoji breton devienne permanent. Il y a 2 ans, cet emoji avait déjà fait une apparition temporaire. Il avait été très utilisé, plus de 400 000 fois en un mois. Mais ça n'avait pas suffi à convaincre l'organisme qui est chargé de créer ces nouveaux emojis. Il avait refusé de rendre le drapeau breton permanent.
Oui, un organisme mondial. Un photographe de West France pris à partie par des membres du groupe de rap PNL.
Oui, le journal le révèle dans un article paru dimanche. Le photographe s'était rendu sur les lieux d'un accident de car en Loire-Atlantique. Pas n'importe quel car, il s'agissait de celui du groupe PNL qui se produisait en concert au Zénith de Nantes le soir même. Le journaliste de West France s'est mis à prendre des photos au téléobjectif. Il a alors été sommé par un gendarme de partir, mais il n'a pas eu le temps car certains des passagers du car lui ont sauté dessus pour lui ordonner de supprimer les photos. L'un d'entre eux est même entré dans la voiture du photographe pour s'emparer de son appareil. La victime a témoigné dans son propre journal « Je n'ai rien pu faire, les gendarmes ont pu éviter que cela dégénère, mais j'ai cru qu'ils allaient me tabasser », dit-il. Le photographe n'est pas en mesure de certifier qu'un des deux rappeurs faisait partie des agresseurs. Le journal West France annonce avoir porté plainte et condamne fermement cette agression et cette atteinte au droit d'informer.
Nolwenn Leroy de retour dans The Voice pour la demi-finale.
Oui, la chanteuse avait participé au début de l'émission, à l'issue des auditions à l'aveugle. En tant que 5e coach, elle avait eu le pouvoir de repêcher quelques candidats recalés par les 4 coachs principaux. On ne l'avait pas revue depuis dans l'émission, mais ça y est, la voilà de retour avec un nouveau pouvoir, celui de repêcher encore un candidat, mais cette fois-ci pour la finale. Sacré pouvoir, hein. Comment ça va se passer? Samedi prochain, 10 talents vont s'affronter pour 4 places en finale, 1 par équipe, mais c'est là que Nolwenn Leroy intervient. Elle pourra en sélectionner un 5e qui viendra lui aussi tenter de remporter le concours. Et puis, autre nouveauté, les candidats vont chanter en duo avec leur coach. C'est une première et ce sera samedi prochain à 21h10 sur TF1.
Et télévision toujours, un documentaire part à la recherche du père de Marilyn Monroe.
Oui, il tente de percer le vrai mystère de la vie de l'artiste, l'identité de son père biologique. Elle était jusqu'à présent un mystère, même pour elle, un mystère résolu, grâce au réalisateur et producteur français François Pommès. Il avait dévoilé son scoop à Paris Match il y a 2 semaines, on vous en avait parlé dans ce journal. Dans le documentaire qui sort demain soir, on suit son travail acharné pendant 4 ans pour faire analyser l'ADN de Marilyn Monroe et enfin percer ce secret. Pour cela, il a fallu traquer des cheveux de la star. Mais oui, traquer des cheveux. Et c'est pas une mince affaire. Ça lui a pris plusieurs années pour en trouver des viables.
On a commencé à récupérer auprès de différents collectionneurs dans le monde des cheveux pour faire des tests ADN. Alors il faut savoir une chose, c'est que l'ADN dans le cheveu se trouve dans la racine. Or tous les cheveux que nous obtenions, c'était des cheveux sans racine. Trouver de l'ADN dans un cheveu sans racine, c'est très compliqué. Il y en a vraiment très très peu. Donc au début, la plupart des cheveux ne répondaient pas aux différents tests. On ne trouvait rien dedans. Une fois, on en a trouvé de l'ADN, mais c'était de l'ADN asiatique. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, Marilyn a aucune racine asiatique, donc ses cheveux sont des faux. Et on a continué jusqu'à rencontrer John Resnikoff, qui nous a parlé de 2 sources. La première, c'est le coiffeur de Marilyn Monroe. La deuxième, c'était l'embaumeur de Marilyn Monroe. Et on lui a dit, OK, allons-y, on va tester ces 2 sources de cheveux différentes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Et puis pour les tester, il faut trouver des labos spécialisés, des laboratoires spécialisés dans l'ADN ancien, le comparer à l'ADN d'une famille dont le grand-père était soupçonné d'avoir été l'un des amants de la mère de Marilyn. Ça donne une enquête captivante avec un dénouement heureux et touchant.
C'est touchant d'abord pour la nouvelle famille de Charles Stanley Gifford qui découvre que Marilyn Monroe fait partie en fait de son arbre généalogique. C'est touchant pour le professeur Ludovic Orlando qui se dit « j'ai résolu un cas en apportant une réponse ». Alors certes, après la mort de l'artiste, mais je l'apporte quand même. Et pour moi, c'est touchant aussi parce que je suis fasciné par Marilyn Monroe et je suis très heureux, même si c'est posthume, d'apporter une réponse, et une réponse qui prouve que Marilyn Monroe, en fait, avait du flair parce qu'elle avait pressenti que Charles Stanley Gifford était certainement son père biologique. Et pour ça, chapeau.
Documentaire Marilyn, la dernière vérité de François Pomès est diffusé demain soir à 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire.
Là, vous avez compris qu'on était dans la fiction. Un nouvel acteur pour incarner Doctor Who en 2023.
Oui, c'est la tradition dans cette série. Le Doctor Who change d'acteur régulièrement. Et ce sera à nouveau le cas en 2023 pour la 14e fois. Alors, le dernier Docteur choisi, c'était une actrice, Jodie Whittaker. Pour lui succéder, la BBC vient d'annoncer avoir choisi Nkuti Gatwa, connue pour son rôle dans la série Sex Education, où il incarne Eric, le meilleur ami gay d'Otis. Il est le premier acteur noir à enfiler le costume du Docteur. Et c'est lui qui donc fêtera les 60 ans de la série l'an prochain.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, dans notre info média du jour, le premier podcast natif d'actualité et le deuxième. En même temps, les deux seront là. Code Source pour le Parisien et la Story pour les Échos. Les deux ont été lancés il y a 3 ans. Les deux battent des records. On en parle avec leurs deux présentateurs, Jules Lavie et Pierre Giffay. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'était fin 2018, il y a 3 ans. Le groupe de presse Les Échos, Le Parisien prenait une participation dans le pur player français de podcast Binge Audio avec une petite idée derrière la tête. Cette idée, ou plutôt ces deux idées, vont se concrétiser quelques mois plus tard. Le 6 mai 2019, Le Parisien et Les Échos lançaient simultanément 2 podcasts natifs d'actualité. Code Source et La Story. Le format de ces 2 émissions est le même, une 20aine de minutes pour parler d'un sujet d'actu avec des journalistes de leur rédaction respective. Mai 2022, donc 3 ans plus tard, les deux podcasts ont grandi et ils battent tous les records. On va donc revenir sur cette story avec nos deux invités. Bonjour Jules Lavie.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Parisien, présentateur, rédacteur en chef du podcast Code Source. En face de vous, avec nous, Pierre Giffay. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste aux Échos, présentateur du podcast La Story et ancien d'Europe 1. Ça ne change rien. C'est pas pour cette raison que vous êtes ici. Bon anniversaire à tous les deux. Nous sommes une émission média. On s'intéresse aux audiences, je l'ai dit. Et nous avons avec nous ce matin Poulidor et Merckx, le premier podcast natif d'actualité en France et Code Source. Et le deuxième, La Story. Est-ce que vous connaissez vos chiffres d'audience, Jules Lavie ?
Oui, alors c'est un peu plus d'1 million d'écoutes chaque mois. Tout confondu, c'est-à-dire sur les plateformes audio, les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Google Podcast et aussi Deezer, Spotify et YouTube parce que Code Source est sur YouTube et on fait aussi d'assez bonnes audiences sur YouTube.
Et même question à Pierre Giffay pour La Story.
Alors nous, on a choisi de ne pas être sur YouTube pour l'instant, mais sinon on fait autour de 830 000, ça c'était plus les chiffres de mars, 830 000 écoutes.
Moi j'avais 837 000 écoutes pour La Story et voilà. 893 écoutes mensuelles pour Code Source, donc en dessous du million. Donc vous avez trouvé des auditeurs dans le taxi en venant ici.
Bah c'est ça. Non, en fait, ils sont juste sur YouTube. Il faut dire que Le Parisien a une chaîne YouTube assez forte avec des images, des vidéos fortes et du coup, on profite de ça aussi.
Ça m'amène à ma question. Comment on mesure l'audience des podcasts ? Est-ce que YouTube fait partie de l'audience ? Vous allez dire oui et vous, peut-être non. Jules Lavie.
Alors, il y a l'audience officielle qui est réalisée par l'ACPM qui quantifie les audiences des journaux et des médias. Et donc, ce chiffre-là ne compte pas YouTube. Il se trouve que nous, on fait beaucoup de vues, donc d'écoutes sur YouTube. On les compte... On les ajoute, quoi.
Alors, à la télé, les audiences, c'est tous les matins à 9h ou à 9h05. Il y a le cœur des patrons de chaîne et des patrons de programmes qui s'arrêtent de battre. Est-ce que vous-même, vous regardez les audiences tous les jours ?
Nous, en fait, on a un système qui s'appelle Acast. Et sur Acast, en fait, c'est un agrégateur de podcasts. On a tous les chiffres, j'ai envie de dire minute par minute, en fait. On voit les écoutes, les téléchargements sur les différentes plateformes.
Justement ma question. Quel rôle vous donnez à ces chiffres ou plutôt quel usage vous en faites ? Est-ce que ça vous fait battre le cœur ou pas du tout ? Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs.
C'est un indicateur. Ça permet de mesurer le succès du podcast, de voir que ça marche. Ça nous donne aussi, ça peut aussi donner des indications sur les sujets qui plaisent, qui sont dans l'actu, avec parfois des surprises. Ça m'est arrivé de faire des podcasts en disant ça va bien marcher, et puis en fait, pas tant que ça. Et d'autres sujets qui d'un seul coup vont vraiment décoller, vont très très bien marcher, sans qu'on sache vraiment pourquoi d'ailleurs.
Vous avez un exemple en tête ? Sinon, je pose la même question à Jules Lavie, le temps que vous trouviez un exemple.
On avait fait un podcast sur Safran, où on racontait un peu l'histoire de Safran
qui fabrique
les moteurs d'avion. Et en fait, c'est un podcast qui... Il n'y avait pas d'actualité précise autour de ça. C'était tiré d'un article des Échos Weekend. Mmh. On en avait fait un podcast et on avait raconté un peu cette histoire et ça avait cartonné. On ne savait pas trop pourquoi.
Ouais, d'autant qu'il faut même dire ce qu'est Safran. Et vous, Jules Lavie, pareil, une bonne surprise.
Une bonne surprise. J'ai fait un sujet récemment sur Jean-Luc Mélenchon. Je ne m'attendais pas à faire une énorme audience. Il se trouve que c'est plutôt bien tombé parce qu'on l'a sorti le jour, enfin le lendemain de l'accord avec les Verts. C'était le début des accords après avec les communistes et les socialistes. Et évidemment, ça a cartonné en termes d'audience. Mais quand j'ai lancé le sujet quelques jours plus tôt, c'était plutôt... Je ne m'attendais pas du tout, non, à faire une bonne audience. Des fois, on a des coups de chance aussi.
Alors, vos podcasts respectifs ont été lancés en 2019 et moins d'un an plus tard, pandémie mondiale. Dans quelle mesure le confinement a boosté vos audiences?
Alors là, pour le coup, ça a été très fort en termes d'audience. Justement, pour préparer cette émission, on a regardé les plus fortes audiences. Et en fait, les deux premiers podcasts ont été des podcasts consacrés au coronavirus, au Covid. Dans les premières semaines, l'appétence des gens sur le Covid était vraiment très forte, puisqu'en fait, la question qu'on se posait, c'est...
On les a notés.
Qu'est-ce qui va nous arriver, quoi, tout simplement. Donc,
L'épisode le plus écouté de Code Source, c'est comment le coronavirus a pris ses quartiers en France, de Wuhan à l'Oise, itinéraire d'une pandémie. C'était le 6 mars. Et pour la story, coronavirus, l'hôpital en alerte le 4 mars 2020. Même question, je ne vais pas dire que c'était une bénédiction, mais le confinement vous a apporté une audience que vous n'attendiez pas.
Bah, on a vu deux choses. On a vu d'abord des gens qui étaient très intéressés par ce qui se passait, qui avaient envie de comprendre, qui avaient envie de savoir et de s'informer. Puis des gens qui avaient énormément de temps. Quand vous vous retrouviez confiné à la maison avec ou sans enfant et que vous n'aviez pas vos 8 heures de travail habituelles, alors il y avait la télé, il y avait la radio, mais vous aviez gardé peut-être aussi vos habitudes d'écouter quelque chose en faisant les courses ou en faisant la vaisselle, en faisant et le podcast, et s'est installé aussi naturellement. Et c'est cette conjonction à la fois du sujet coronavirus, que les gens, on va dire, on ne pensait qu'à ça. Hein. À un moment, je me suis dit au bout d'un mois, mais il va peut-être falloir qu'on parle un peu d'autre chose parce que les gens vont en avoir ras-le-bol. Et en fait, non. Il y avait vraiment une appétence pour le sujet.
Est-ce que vous savez comment a démarré la mode des séries aux États-Unis, le fait que les gens se ruent sur les séries? Vous connaissez l'histoire ou pas?
Non.
C'était à cause de la grève des scénaristes à Hollywood. Et comme il n'y avait plus de films nouveaux qui sortaient, les gens se sont jetés sur les séries et ils y sont restés. Pourquoi je prends cette longue digression pour poser cette question? Est-ce que le public que vous avez trouvé grâce au confinement est resté fidèle ou est reparti une fois que les portes des maisons se sont ouvertes?
Non, le public est resté a priori... L'audience de Code Source monte tout à fait progressivement. C'est une courbe qui monte comme ça. Donc je pense qu'à chaque fois, les gens restent, puis en parlent à leurs amis. Il y a un effet bouche à oreille qui joue beaucoup. Et donc, du coup, non, ils sont restés et ils sont de plus en plus nombreux.
Alors, Jules Lavie, l'actualité récente vous porte également. On va entendre un extrait de Code Source du 3 mars dernier. C'était avec Benjamin Jérôme, qui est journaliste au Parisien Week-end, et Alexandra Jousset, journaliste et co-autrice d'un documentaire consacré à l'armée Wagner.
Benjamin Jérôme, le 28 février, le journal britannique Times affirme que des mercenaires russes sont déployés en Ukraine pour une mission bien particulière.
Oui, on parle de 300 à 400 hommes qui seraient effectivement arrivés en Ukraine 5 semaines avant le début du conflit. Le Times se dit qu'ils sont là tout simplement pour aller tuer le président ukrainien. Ils disent aussi qu'ils sont là pour supporter l'avancée des troupes officielles russes.
C'est quoi la force Wagner d'un mot?
La force Wagner, ce sont des mercenaires principalement russes. C'est une organisation informelle qui n'est même pas reconnue par la Russie, mais dont on s'aperçoit très vite qu'ils épousent tous les intérêts du Kremlin et qu'ils sont sur des théâtres d'opérations qui intéresse Moscou.
On n'a pas encore parlé du concept schématiquement, c'est raconter les coulisses des reportages de votre rédaction avec le journaliste qui a fait le sujet. C'est bien ça, Jules?
Exactement, l'idée c'est de raconter une histoire d'actu à chaque fois sur 20 minutes.
C'est le même concept qu'Eric Faye pour la story?
Oui, absolument, hein, ou plusieurs journalistes de la rédaction. Ils ont un carnet d'adresses, ils ont énormément de connaissances, ils sont quasiment tous rubricards. Ils ont parfois 10, 20 ans de métier sur un sujet, donc ils viennent... à nous raconter, expliquer, analyser. Là aussi, on parle d'économie, donc il faut faire là aussi preuve de pédagogie, et c'est ce qu'on essaie de faire.
Pourquoi le même format pour les deux podcasts?
Alors, je ne sais pas. En fait, je pense que c'est parce qu'il est inspiré du Daily du New York Times, qui est le podcast d'actu qui cartonne aux États-Unis, dont on s'est inspiré pour créer nos podcasts, et c'est tout simplement pour ça. Puis c'est juste le bon format.
Pierrick Fay.
Oui, c'est vrai que 20 minutes, c'est un format, c'est le temps de trajet en général en voiture, c'est souvent le temps de trajet en transport en commun. Mmh. Donc on a pensé que c'était là aussi une bonne façon d'accompagner les gens dans leurs déplacements.
Si je me souviens bien, il y a même un journal qui s'appelle 20 minutes. Pierrick Fay, Jules Lavie sont avec nous, Code Source et La Story. Ils sont numéro 1 et 2 des podcasts d'actu. On continue d'en parler dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de deux podcasts natifs d'actualité, Code Source, gérés, si j'ose dire, même si je déteste ce terme, c'est le premier qui m'est venu, pardon, par Jules Lavie. Vous en êtes, c'est vous qu'on entend au micro, vous êtes le rédacteur en chef. La Story, c'est édité par Les Échos, c'est vous, Pierrick Fay, qui êtes au micro, qu'en êtes le rédacteur en chef. On a entendu un extrait de Code Source, c'est à votre tour, Pierrick Fay, extrait d'un épisode très écouté également, il concerne la réforme des retraites, épisode diffusé en novembre 2019.
Travailler plus longtemps pour une meilleure retraite. La logique s'appliquerait au nouveau régime universel, le même pour tous.
Travailler plus longtemps pour gagner plus à la retraite. Mais pourquoi ? Depuis que je travaille, et ça commence à faire quelques années, j'entends parler de la nécessaire réforme des retraites. Les réformes passées ne sont-elles pas suffisantes pour sauver le système français par répartition ? Et puis je suis tombé sur l'article de Solveig Godeluc dans Les Échos. Réforme des retraites, le rapport qui va attiser les tensions. Il est question dans ce rapport remis aux partenaires sociaux d'un déficit abyssal pour les années à venir pour le régime de retraite. Mais c'est comme à la SNCF, pour la retraite, une réforme peut en cacher une autre, l'une à court terme et l'autre à moyen terme. Et c'est ce que je vais essayer de comprendre dans cet épisode de La Story.
Épisode diffusé le 29 novembre 2019, il s'intitulait « Retraite, une réforme peut en cacher une autre », c'était prophétique.
Ouais.
Puisque deux ans avant, Emmanuel Macron n'avait pas encore annoncé son intention de reculer la retraite à 65 ans.
Voilà, effectivement, on en parlait beaucoup. C'est pas allé jusqu'au bout, là aussi, parce qu'il y a eu l'épisode du Covid qui a complètement mis à plat, mais effectivement, ça devait aller au bout. Et la réforme de la retraite, c'est effectivement une réforme qui tient beaucoup à cœur du président de la République. Donc ça va revenir sur le devant de la scène. Et on prépare une émission, d'ailleurs, dans La Story, là, pour cette semaine, sur le thème de la retraite, et notamment la retraite à 65 ans. Et certains veulent même nous promettre une retraite à 60 ans. Je n'ai pas l'impression que ça soit possible.
Je vais revenir à des questions médias. Vous annoncez devant Jules Lavie, qui lui aussi a un podcast que vous préparez. Ça sous-entend que vous n'êtes pas concurrent. Vous êtes complémentaire. Ou est-ce que parfois, il y a des sujets qui se retrouvent sur vos deux médias, sur vos deux podcasts? Les Échos, pour qui ne connaîtrait pas, Le Parisien, c'est plutôt un journal d'information générale. Les Échos, à vocation économique.
Oui, c'est ça. Mais on est complémentaires, effectivement, puisque Pierrick sera souvent sur des sujets échos, comme son nom l'indique, presque, puisque c'est le podcast des Échos. Et nous, aux Parisiens, on est sur des sujets généraux. On va parler d'affaires criminelles, on va parler de politique, on va parler du PSG. Et ouais, bien sûr, parfois aussi, on parle d'économie. Typiquement, Elon Musk, qui rachète Twitter, on a fait chacun un podcast dessus.
Est-ce que chacun a écouté le podcast de l'autre?
Peut-être pas.
Alors,
on n'a pas forcément
après
le temps d'écouter tous les podcasts.
Après coup, ça a dû m'arriver parce qu'effectivement, j'aime bien voir aussi ce que fait Jules, parce que là aussi, ça peut être une source d'inspiration. Là aussi, de voir comment est-ce qu'on peut travailler à améliorer le podcast, parce que c'est ça aussi l'idée tous les jours. Mais c'est vrai que nous aussi, on peut être amené à traiter. J'ai fait deux épisodes sur les 50 ans du PSG, par exemple.
Géographiquement, est-ce que vous êtes dans le même immeuble?
Oui.
Est-ce que vous vous croisez à la machine à café?
On se croise à la cantine.
Oui.
Alors, vous avez tous les deux fait de la radio. Jules à France Info, Pierrick ici même à Europe 1. Je ne vais pas vous demander la différence entre la radio et le podcast, mais la manière dont vous fabriquez un épisode de 20 minutes, ce qui est absolument impensable, puisqu'un canard, c'est comme ça qu'on dit en radio, c'est 5, 6, 7, 8, 15 minutes. Là, c'est 20 minutes. C'est quoi le storytelling d'un podcast, Jules Lavie?
Alors, c'est vraiment, on scénarise l'information. C'est ce qu'on appelle du journalisme narratif. On se dit, voilà, comment on va raconter cette histoire, par quoi on va commencer, quelle va être la fin. Surtout, la fin doit être quelque part forte et satisfaisante. Et même quand les sujets ne sont pas réellement terminés, typiquement sur l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard avec son mari qui est évidemment soupçonné actuellement. Il n'y a pas d'épilogue à cette histoire, mais on a déjà fait 6 podcasts dessus. Et à chaque fois, chacun de nos 6 épisodes sur cette affaire ont une forme de fin. Même si, bien sûr, on précise bien que Cédric Jubilard est toujours présumé innocent. Mais à chaque fois, il faut trouver une fin.
Même question pour vous, parce que c'est beaucoup plus difficile de scénariser l'économie que les infos gênées, qu'un fait divers avec un type qui lave une couette à 4h30 du matin.
Ça, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais c'est en même temps le défi qui est assez intéressant. Et c'est vrai que le point de départ, moi, je démarre toujours le podcast avec sur quoi je pars, sur comment je démarre, avec quel son, avec quelle information je démarre le podcast. Et après, effectivement, on est tire une sorte de fil d'Ariane qui doit nous amener d'un point A à un point B pour avoir une démonstration d'un sujet d'économie, mais pas seulement, ça peut être du social, ça peut être des faits de société également, avec des épisodes qui parfois vont être faciles et simples à faire parce qu'on a du témoignage. Par exemple, notre correspondant en Chine qui nous raconte qu'est-ce que c'est d'être confiné depuis un mois et de ne pas avoir le droit de faire sortir pisser son chien. Il reste en train de pisser sur le balcon.
Ils vont être contents, voilà. Les gens du moins un.
Voilà, donc c'est vraiment, des fois ça coule de source, j'ai envie de dire, et il y en a d'autres, c'est plus complexe à mettre en place.
Ouais. Avec quelles équipes travaillez-vous? Alors évidemment, vous êtes adossés chacun à sa rédaction, vous Les Échos, vous Jules Lavie, Le Parisien, mais avec quelles équipes dédiées au podcast travaillez-vous? Vous êtes combien, Jules Lavie?
On va dire que c'est l'équivalent de 4 temps plein et demi. Je travaille notamment avec un journaliste producteur qui s'appelle Thibault Lambert, ancien d'Europe 1.
On l'a connu ici, Thibault Lambert, on
le savait. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Le podcast, il y a vraiment cette notion. Enfin, derrière, il y a la production, il y a le montage, bien sûr, la production, la réalisation qui est très importante. Et donc, c'est une petite équipe, mais très soudée.
4 et demi, et vous?
On est 3. J'ai un réalisateur, Willy Gann, qui fait un gros boulot, là aussi, de montage, de nettoyage. Et Michel Varnet, avec qui je travaille, qui me remplace également quand je suis en vacances.
Des jokers comme Gilles Boulot,
et Thibault Lambert qui me remplace aussi.
Voilà. Anne-Sophie Lapix. L'avenir pour vos deux podcasts, vous allez faire des modifications ou on ne change pas deux équipes qui gagnent?
Alors pour les 3 ans, on a déjà un nouveau logo, ça ne change pas en termes sonores, mais bientôt, d'ici quelques semaines, on aura aussi un nouveau générique, une V2 du générique, même si on aime notre générique. Et sinon, non, on ne change pas une équipe qui gagne. Effectivement, on continue à avancer au fur et à mesure.
Et alors la question la plus terrible que je vais poser à Poulidor, est-ce que vous avez envie de passer devant Eddy Merckx, Pierrick Fay, est-ce que vous souhaitez que la story passe devant Code Source?
Je crois que l'année dernière, j'étais devant lui, c'est lui qui m'a doublé en fait.
C'est
Poulidor est devenu Merckx. Voilà. Non, c'est vrai.
C'était moi le Poulidor avant.
Voilà, mais c'est vrai qu'il est sur des thématiques qui sont peut-être plus faciles à aborder que l'économie. Et moi, franchement, je suis assez fier d'avoir autant de gens qui écoutent sur un sujet qui peut paraître complexe, mais qui, bien expliqué, éclaire pas mal de choses dans la société.
Dernière petite question d'actualité. Comment ça se passe quand vous faites un podcast autour de ce qui se passe en Russie, puisque la parole des journalistes en Russie n'est pas libre? Comment ça se passe?
En fait, la parole n'est pas libre. Si, typiquement, on a une journaliste qui a été en Russie pendant une semaine, elle a pu faire ses reportages, elle est revenue, elle nous a raconté ce qu'elle avait vu en Russie.
Elle peut envoyer le mot guerre. Mais oui, si vous êtes un correspondant sur place, comment ça se passe?
Là, c'est plus compliqué. Typiquement, actuellement, je n'ai pas de correspondant en Russie.
Nous, on a Benjamin Quenel en Russie. Effectivement, j'ai fait assez vite un podcast avec lui pour essayer de comprendre comment la guerre était perçue en Russie. On n'a pas employé le mot guerre. Enfin, on a fait très attention, là aussi, lui, dans les mots qu'il employait, mais moi également, dans les mots que j'employais, là aussi, pour qu'il soit en sécurité.
À Moscou. Merci d'avoir été avec nous, Pierrick Fay, qui dirige le podcast La Story, Jules Lavie, même chose, même emploi. Code Source sont les podcasts du Parisien et des Échos. Merci d'avoir été avec nous en direct sur France Info.
Merci.
Dans un instant, Jean-François Patti avec nous, directeur marketing de la FIFA, la Fédération Internationale de Foot. Pourquoi? On en parle parce que la FIFA vient de lancer FIFA Plus, plateforme de divertissement en ligne en 11 langues, des dizaines de milliers de matchs à voir gratuitement. Les chaînes de télé et les plateformes payantes ne sont pas tranquilles. On en parle dans un instant avec lui sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Jean-François Patti.
Bonjour Philippe Vandel, merci de l'invitation.
Merci surtout d'être là. Peu de gens le savent, vous êtes un personnage d'une importance stratégique mondiale et je pèse mes mots. Vous êtes le directeur marketing de la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Vous savez combien de pays sont affiliés à la FIFA?
Bien sûr, 211.
211, à titre de comparaison, il y a seulement 197 États membres affiliés à l'ONU, juste pour donner une idée de la surface de la FIFA sur la planète. Votre actu, c'est donc une actu mondiale qui peut changer l'écosystème de la télévision à l'échelle de la planète. C'est la FIFA qui vient de lancer FIFA Plus, plateforme de divertissement en ligne. Dès le premier jour, elle était déjà en 5 langues. On sent que les ambitions sont grandes. En quelques mots, avant qu'on détaille, racontez le projet.
Alors le projet, c'est probablement l'un des plus gros projets lancés par la FIFA sur les dernières années. C'est vrai qu'on a un système ou un écosystème digital qui est déjà assez conséquent. Mais en regardant un peu ce qui se passait dans le monde des médias autour du monde, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être commencer à changer et évoluer un petit peu. Donc après la Coupe du Monde 2018 en Russie, on a commencé à regarder le projet et on s'est dit que ce serait bon d'agréger un peu tous les contenus qu'on avait sur une plateforme. Donc FIFA Plus, en quelques mots, c'est une plateforme digitale interactive disponible déjà sur 190 pays. Et ça va grossir. Bien sûr, donc global.
Je souris parce que si vous êtes déjà sur 190 pays, ça peut plus beaucoup énormément grossir. Il faut déjà arriver à être sur 190 pays dès le premier jour.
Bon,
c'est donné à très peu.
Il nous en manque déjà 21 par rapport aux 211 fédérations. Donc déjà 5 langues lancées. On partira sur 11 langues d'ici, je pense, à la fin de l'année.
Je vous interromps d'un mot. Les 5 langues, c'est l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le portugais.
Exactement.
Pour les Brésiliens. Le mois prochain, 11 langues en tout. Les langues supplémentaires, j'imagine l'italien.
L'italien.
Le chinois, le mandarin.
Alors, le chinois, c'est un peu compliqué par rapport aux droits médias, justement. Donc, on partira plus sur le japonais et le coréen pour commencer. Ensuite, le bahasa pour l'Indonésie. Mm-hmm. Et puis, d'autres langues à venir.
Mais... Alors, avant qu'on détaille les différentes catégories, qu'y aura-t-il au programme ? Vous dites avoir agrégé différentes sources. Qu'est-ce qu'on trouvera sur FIFA Plus ? Qu'est-ce qu'on trouve d'ailleurs ? Alors, puisque ça a déjà démarré,
ça a déjà
regardé évidemment.
Exactement. Donc on a lancé ça à la mi-avril. Donc déjà des matchs en direct. Alors ça, c'est une grosse nouveauté. On aura, j'ai les chiffres devant moi, on aura quasiment 40 000 matchs d'ici à la fin de l'année qui seront diffusés sur FIFA Plus.
40 000 matchs en direct par an ?
Alors ouais, exactement. Ouais. Donc on part sur de nouveau. Hein, on a une plateforme qui est vraiment globale.
Et gratuitement, vous les prenez où ?
Alors exactement. Mais ça, c'est un point très important de notre plateforme. C'est une plateforme gratuite qui est assez différente d'autres modèles. Et donc on les prend sur plein de ligues européennes, mais aussi mondiales.
C'est pas seulement des matchs FIFA d'équipe nationale.
Non, absolument pas. Non. Alors non, ça parce qu'on a quand même un système en place avec des diffuseurs établis et qui sont des gros partenaires
et qui ont payé très très cher pour avoir l'exclu. Donc on ne pouvait pas les griller.
Non, exactement. Et avec qui on travaille. De nouveau, FIFA Plus n'est pas censé être en compétition avec ces plateformes. C'est plutôt un complément. Mm-hmm. Et donc ce contenu, c'est un contenu qui n'est pas diffusé par les autres plateformes. Donc,
par exemple,
on aura la Ligue italienne féminine, donc la série B italienne féminine qui sera sur notre plateforme. On aura des ligues polonaises, on aura du Mexique, on aura un peu de tout, parce qu'il y a une demande en fait.
Ma question, qui a envie de regarder la Ligue 2 polonaise, à part les gens de ces villes en Pologne et à part l'immigration polonaise? Mais ça ne fait pas non plus un public énormissime.
Alors, certains matchs auront une audience forte, d'autres en auront une plus petite, mais c'est aussi le rôle de la FIFA de générer de l'audience et de pouvoir montrer du football à tous ceux qui sont intéressés. Alors, je pense que pour le football féminin en particulier, il y a encore un souci d'exposition.
Alors justement, je vais dire un mot du football féminin, parce que la FIFA a annoncé plusieurs objectifs avec cette nouvelle plateforme, et le premier mis en avant, c'est le football féminin. On ne vous attendait pas sur ce terrain-là. Pourquoi cette ambition ?
Déjà, on a quand même l'événement le plus populaire de football féminin, qui est la Coupe du Monde féminine, qui était en France en 2019, qui était un énorme événement, qui a généré énormément d'audience. Mais c'est vrai qu'ensuite, entre les Coupes du Monde féminines, on a un petit souci sur les ligues en particulier, où l'audience a tendance à réduire. Donc, c'était important avec ce projet FIFA Plus de pouvoir donner de l'exposition à ces ligues. Nous avons parlé à toutes nos fédérations. Et ben, en gros, nous prenons le contenu que les autres diffuseurs ne prennent pas, parce qu'il y a vraiment une demande.
Ce sont des images gratuites pour nous, téléspectateurs. Est-ce qu'elles sont gratuites pour vous ? Est-ce que c'est la FIFA qui met des caméras au bord des stades ? Parce que c'est payant, la télévision. Quand un match est diffusé, ça veut dire qu'il y a des salaires à payer. Ou est-ce que ce sont les ligues qui filment ? C'est quoi l'écosystème ? Comment le business plan, si j'ose dire ?
Alors, le business plan, on est assez flexible, en fait. Ça dépend énormément des fédérations. Certaines fédérations sont déjà équipées et ont des productions. Alors, complexe ou plus simple.
Donc ils vous les donnent ou est-ce qu'ils vous les vendent ?
Ils peuvent nous les donner, ouais, absolument. Alors après, il y a un business plan derrière qui peut se mettre en place. Mm-hmm. Maintenant, la plateforme FIFA Plus, c'est aussi, et c'est aussi la mission de la FIFA, c'est d'avoir un peu de solidarité, de transfert de compétences avec certaines fédérations qui n'ont pas encore les compétences, mais qui ont le désir de développer ces compétences-là. Donc là, c'est nous qui amenons la partie technique et technologique.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré « La plateforme FIFA Plus représente la prochaine étape de notre vision qui consiste à rendre le football véritablement mondial et inclusif. » Alors là, je dois dire que j'étais très étonné parce que mondial, le foot l'est déjà. La Coupe du Monde de foot, c'est le premier spectacle télé au monde avec peut-être les JO. Il parle aussi de démocratisation du football. J'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui est démocratisé, c'est bien le football. Vous allez n'importe où, dans n'importe quel pays du monde, il y a les gamins qui jouent dans la rue au foot pieds nus parfois avec des chaussures et je leur souhaite. Mais inclusif, qu'entendez-vous par là ?
Je pense que oui. Alors, quand on parle de la Coupe du Monde, c'est l'élite, c'est des matchs fantastiques. Et ça, c'est une grosse partie du football. Maintenant, il y a toute une autre partie qui est un peu plus peut-être culturelle aussi. J'écoutais votre émission avec Didier Roustan il y a pas longtemps. La Roustanie, ça en fait partie. Mm-hmm. Et nous, c'est un peu le même principe, c'est de raconter des histoires autour du foot, de cultiver cet intérêt. Je pense que la jeunesse, maintenant, est exposée à énormément de contenu. Et c'est important de garder cette connexion avec cette jeunesse. Donc, c'est là où on devient inclusif.
Alors, qu'y a-t-il exactement sur ce site? Parce qu'il y a des matchs en direct, mais aussi des anciens matchs. On va vous faire entendre un match extraordinaire, et 1, et 2, et 3-0. France-Brésil 98, c'est sur le site de la FIFA. Et c'est gratos. Jean-François Paty, c'est le directeur marketing. Il est avec nous. Culture Média continue sur Europe
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-François Paty, le directeur marketing de la FIFA. FIFA qui a lancé il y a tout juste un mois un nouveau service, nouvelle plateforme, s'appelle FIFA Plus, avec des milliers, des dizaines de milliers de matchs à voir. Vous annoncez 40 000 matchs en direct par an. Parmi ces 40 000 matchs, 11 000 matchs de foot avec des filles, on ne dit pas de foot féminin, mais des équipes féminines de football, et aussi des golds, si j'ose dire. Vous annoncez avoir quasiment tous les matchs de toutes les Coupes du Monde, 2500 vidéos qui remontent jusqu'aux années 50, vous voulez en rajouter encore?
Oui, absolument. Alors, c'est un travail de digitalisation qui est important. On a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Mais oui, le match Brésil-Uruguay en 1950, joué au Maracana devant 200 000 personnes, ben, il est disponible. Ouais. Et c'est exceptionnel.
Vous avez les yeux qui brillent. Il est extraordinaire, ce match.
Ah, il est formidable. Ouais, ouais. C'est un match de légende. Mais surtout, c'est encore, je crois, le match avec le plus de spectateurs au monde.
Voilà. Alors, sur le site, on peut trouver ces matchs de légende, comme vous venez de le dire, gratuitement. Exemple, la finale de la Coupe du Monde France-Brésil, c'était en 98, c'était au Stade de France. On est vers la 27e minute, extrait.
Petit. Zidane! Lift off for France! And the calmest man amidst the clamour is the scorer himself. Simple floated corner. And Zidane barely had to jump. Up above Leonardo.
For France, numéro 10.
Used the pace of the
10,
ball.
Zinedine
Taffarel beaten. And the man they love to call Zizou.
Zizou, le son est absolument extraordinaire parce qu'on a l'ambiance du stade. Mais question, pourquoi est-ce en anglais? Pourquoi on n'a pas Thierry Roland, Jean-Michel Larquet ou sur Canal c'était peut-être non, c'était Thierry Gilardi et Charles Bietri.
Bravo.
De mémoire. Je ne l'avais pas noté, mais de mémoire.
Non, alors ça dépend un peu des droits, des droits médias. Et aussi, il y aura une évolution un peu du contenu.
J'ai mal posé ma question. Est-ce que tous les matchs pour l'instant sont en anglais? Moi, j'ai regardé que celui-ci.
Non, il y a un peu de tout. Mais de nouveau, ça dépend un peu des droits. L'idée, c'est de nouveau d'avoir les 11 langues le plus rapidement possible. Selon les droits, mais on essaiera.
Vous annoncez également la diffusion, je cite, des matchs filmés à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar, les matchs éliminatoires en rediffusion ou même certains matchs en direct?
Non, alors les matchs de la Coupe du Monde au Qatar, non, pas en direct en raison des droits médias qui sont déjà alloués à nos diffuseurs. De nouveau, je pense que c'est important de bien dire qu'on n'est pas en compétition avec nos diffuseurs.
Ouais.
Donc ça, ces droits live, ils sont avec les diffuseurs.
Alors, il y a beaucoup de concurrence. Canal+, contre la concurrence, avait inventé les créations originales. Et vous aussi, vous avez créé des programmes originaux FIFA+. On trouve quoi d'un mot?
Alors, c'est très divers, très hétérogène. C'est produit soit par nous, soit par des sociétés de production contractées. On aura des documentaires sur des joueurs de légende. Des documentaires un peu plus légers, on en a un qui s'appelle HD Cuts, qui est avec Sean Edwards, qui est le coiffeur
des stars.
Exactement, le
et
coiffeur des stars.
Et je me suis dit, ça c'est une porte d'entrée, c'est pour amener au football des gens qui ne s'y intéresseraient pas totalement de prime abord.
Ouais, on est censé vraiment couvrir tous les fans, le fan de base, le fan qui est passionné, le fan qui est peut-être un peu plus occasionnel.
Sur votre compte LinkedIn, vous relayez l'annonce de Netflix de la prolongation de 2 ans de la série Drive to Survive qui raconte la Formule 1 au quotidien. La F1 et son marketing, c'est un modèle pour le foot, pour la FIFA?
C'est une inspiration, un grand succès. Je pense que là, on doit regarder ça et se dire oui, bravo. très très bien. Donc on va essayer de pas de copier, parce que la Formule 1 et le football, c'est assez différent, mais oui, c'est une inspiration.
Il y a déjà un documentaire qui s'appelle Captains. Vous suivez les capitaines de 6 équipes pour la campagne qualificative pour la Coupe du Monde. Mm-hmm. Ça rappelle un peu Drive to Survive, où on suit toutes les équipes de F1.
Ah, il y a tout un contenu autour des matchs de foot qui est pas du tout exploité à l'heure actuelle. Et ça, c'est parfait. Je pense que les gens devraient connaître toutes ces histoires. C'est magnifique.
Le programme a été lancé, la plateforme a été lancée il y a quelques semaines, 4 semaines. Je ne vous demande pas les chiffres parce que je sais que vous ne donnez jamais les chiffres. Vous êtes comme Netflix. Ça s'appelle FIFA Plus. C'est déjà disponible en français. Le site, je vais le citer, vous écrivez en toutes lettres FIFAPLUS. C'est sur le site, sur Internet, en application mobile. Un grand, grand merci, Jean-François Paty, d'avoir été ici avec nous en direct sur Canal+. Vous êtes le directeur marketing de la FIFA. À très bientôt.
Merci.
Culture Média continue après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il a été très ému par la bande-annonce d'une émission de Mediapart qui a réussi à réunir 20 femmes qui ont porté plainte contre PPDA. Et notre invité, c'est Adrien Gallo, l'ex-leader des Bébés Brunes. On va parler de sa tournée et son dernier et son deuxième album solo, Là où les saules ne pleurent pas. Et puis, cinéma de l'indispensable avec Olivier Benkemoun. Et puis Stéphanie Loire va nous parler d'un album très attendu du groupe de rock Arcade Fire qui vient de sortir, Marc-Antoine Lebray, en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.